Éric Bouvet, le peuple de Maïdan. Éric Bouvet photographie les gens en action, quelles qu'elles soient ou pas. Cet humaniste au regard vif, au sourire large, a obtenu un grand nombre de prix. World Press, Visa d'Or, prix Bayeux. Il a couvert presque tous les conflits depuis qu'il porte son sac en bandoulière, notamment en Tchétchénie, dans des conditions hallucinantes qu'il a décrites dans un livre. Ce mercredi 26 février 2014, Éric Bouvet est bien calé dans le canapé marron de son atelier parisien. Il me reçoit dès son retour, 3 jours plus tôt, de Kiev, la place Maïdan. Là-bas, entre le 20 et le 23 février, il monte au plus près des combattants, photographiant ceux de la place, puis ceux d'en haut, aux boucliers de bois qui font face aux tirs des forces de sécurité, le peuple de Maïdan. Maïdan, place de Kiev, où du 18 février au 23 février 2014, le peuple s'est dressé contre un pouvoir corrompu. Rien que le 18 février, on compte 82 morts et 622 blessés. Après ces épisodes, toujours en 2014, les anti-Maïdan tonnent et se soulèvent à Donetsk, à Louhansk et Sébastopol. Ils sont pro-russes. Dès mars, la Crimée est rattachée à la Russie. Puis la guerre s'installe dans le Donbass. Un avion de ligne est abattu. Et en 2021, la situation est larvée. Il y a peu, des troupes russes se dirigeaient vers l'est de l'Ukraine. En février 2014, en haut de la place Maïdan, Éric Bouvet est allongé derrière un monticule de terre, près d'un arbre, et les insurgés tombent face à lui. Il est au mauvais endroit, à un moment incertain.
J'arrive le mercredi après-midi, et effectivement, je trouve que c'est très très chaud. Je travaille un petit peu, le soir compris, et le lendemain matin, qui est le fameux jeudi 20, je me retrouve à 8h30 sur les barricades, et ça cogne vraiment dur, quoi. Donc voilà, et puis je suis plus ou moins tout seul, je regarde, alors que logiquement il y a toujours au moins 200 journalistes sur la place. Je rencontre personne que je connais, et à 9h-2 je crois à peu près, les barricades s'ouvrent, et là, ma grande surprise, la police se retire et les manifestants, les révolutionnaires, enfin bref, prennent la place et chargent. Donc je laisse passer 100, 200 personnes parce que la place est complètement vide, donc ça serait facile de se faire allumer, si je peux dire. Et donc là, je suis le truc et ça commence. Voilà. Le peuple de Maïdan, parce que c'est vraiment le peuple, hein, c'est pas du tout aussi ce que s'imaginent d'autres personnes, les mouvements d'extrême droite. Oui, effectivement, il y en avait quelques-uns, il y a des groupuscules comme on en a en France, comme on en a partout, il y en a partout, quoi. Mais c'est certainement pas des nazions, des groupes d'extrême droite qui ont fomenté ce truc-là, parce que c'est tellement énorme, c'était vraiment le peuple. Et moi, je peux vous dire, parce que j'ai vu les gens, évidemment, il y avait aussi bien des petites minettes, des petites étudiantes, que des babouchkas qui venaient porter le thé, le café, les sandwichs au milieu de la ligne de front, quoi. Ils viennent avec leur plateau, quoi. C'était incroyable. Et les gars qui sont morts devant moi, là-haut, je peux vous assurer que c'était plutôt des gavroches et des types de 60 ans, plutôt que des types habillés tout en noir avec des insignes nationalistes qui se la pètent et qui ont 30 ans, quoi. Quand on est dans ce centre-ville de Kiev, on est dans une capitale européenne. C'est ce qui nous est arrivé aussi avec la guerre en ex-Yougoslavie, quoi. C'était la guerre en Europe. On n'avait pas l'habitude. Là, pareil, on se retrouve dans ce centre-ville avec des gens qui sont habillés comme nous, qui ont, entre guillemets, la même religion, plus ou moins la même culture. Vous voyez, on n'est pas projeté en Afghanistan ou dans une guérilla africaine. Là, on est vraiment avec des gens avec qui on peut communiquer, quoi. On est, entre guillemets, sur la même ligne. Effectivement, il y a toujours ce petit problème de langage, mais il y a pas mal de gens qui parlent anglais et français, d'ailleurs. Donc, il y a ce décalage, effectivement. Et là, il n'existe pas, contrairement à d'habitude. Il n'existe pratiquement pas. Et c'est pour ça que je pense que c'est une des raisons pour laquelle, pour moi, ça reste une des histoires humaines les plus fortes. Pourtant, j'en ai vécu un bon paquet, hein, mais voilà, peut-être est-ce que parce que s'il y a un rapprochement, parce qu'ils sont peut-être plus proches de moi que toutes les autres guerres que j'ai faites, voilà, c'est possible.
À propos d'ils sont plus proches de vous, physiquement, vous êtes très près d'eux.
Ah, pour les prises de vue, oui, là, c'est difficile de faire plus près, effectivement. Mais c'est le fait aussi que, bah voilà, étant donné qu'il y avait, est-ce que c'est parce que j'ai recherché au niveau de la prise de vue, je sais pas. Est-ce que c'est aussi certainement le fait que on avait très peu de place pour se protéger, et même là où on pensait être protégé, on l'était pas, parce que vous imaginez bien que les boucliers de bois ou d'espèces d'acier léger, d'ailleurs il y en a plein où on voit les trous de balles qui passent à travers, quoi. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'étais aussi prêt, c'était peut-être pour pas me détacher et puis être faire corps avec eux, et puis bon, la plupart du temps là dans la série de l'attaque là-haut, je suis à plat ventre comme eux, quoi.
C'est où là-haut?
Ah oui, j'appelle ça là-haut. Alors bon, sans tomber dans le mystique, est-ce que j'avais beaucoup aimé un livre qui s'appelait Là-haut de Schoendorfer. Mais là-haut, c'est parce qu'en fait, la place est entre guillemets en bas et l'attaque a lieu et l'on monte tout le temps. Et on monte, on contourne l'hôtel Ukraina qui est un petit peu plus haut, qui lui-même surplombe la place, et on passe sur le derrière de l'hôtel pour aller vers le Parlement et la présidence. Et arriver sur ce plat, ce haut plat, c'est là où on tombe dans ce piège et effectivement les morts tombent, quoi. Enfin, les vivants tombent et deviennent morts, quoi.
C'est là qu'il y a les arbres.
Oui, il y a quelques arbres, et d'ailleurs c'est assez incroyable parce qu'à cet endroit-là, non seulement effectivement il y a les morts un petit peu partout, et les arbres sont brisés. C'est comme s'il y avait eu une guerre beaucoup plus lourde avec des tirs de canon, des choses comme ça. Et en fait, c'était un emplacement qui servait pour la police auparavant, à un camp arrière, en fait, une base arrière, qui est pas loin, hein, c'est à 300 mètres de la place, quoi. Et ils coupaient les arbres pour chauffer, donc il y a une atmosphère, effectivement, on croirait que c'est apocalyptique presque. Sur ce plateau là-haut, il n'y a rien pour se planquer, il y avait juste des arbres. Ainsi que ce petit terre-plein qui faisait 50 cm de hauteur, enfin même pas, non, entre 30 et 40, je pense. Et la seule chose pour se protéger, c'était de s'allonger derrière. Bon, le souci, c'est que il y avait un type qui nous tirait dessus aussi, qui était sur la gauche. Et tant qu'on était allongé, ça avait l'air de pas trop mal se passer. Dès qu'on se mettait à genoux, voilà, on se faisait déglinguer, quoi. Et puis, à mauvaise surprise, ça a été que visiblement, il y avait un tireur qui était aussi planqué derrière nous, donc auquel on s'attendait pas, qui était, il s'est dit, dans l'hôtel Ukraina, quoi. Et là, lui, il était à 150 mètres, donc ça a été facile pour lui de faire le carton, quoi. Il y avait Jérôme Cecini de l'agence Magnum et donc moi-même, on n'était que deux là-haut. Sur cet événement, c'est là où il y a le plus de morts, en fait. Donc, bref. Contrairement à ce qui a été dit aussi, il faut arrêter. Pendant les 2 heures qu'a duré cette bataille, moi j'ai vu un fusil de chasse et une carabine 22 long rifle. Et c'était sur des milliers de gens. Bon, j'ai pas tout vu, j'étais pas partout non plus, mais j'étais aux avant-postes, donc je peux vous dire que ils sont montés à l'assaut et ils avaient, à part des cocktails Molotov et effectivement leur batte de baseball, ils avaient rien d'autre, quoi. Et c'était, alors je sais pas ce qu'on pourrait lire dans leurs yeux, mais tout ce que je sais, c'est que ils étaient armés d'un courage comme j'en ai rarement vu, parce que ils savaient très bien, hein, on entendait, et puis les gens tombaient autour de nous, quoi, que on nous tirait dessus en face à 50 mètres. Donc c'est quand même facile de faire mouche à 50 mètres, hein. Et voilà, il y avait des vagues de ces gens qui montaient, et puis dès qu'il y en avait un qui tombait, ils revenaient pour essayer de le retirer de là, de le porter vers l'arrière. Et en même temps, ces gens qui venaient, enfin, donc des brancardiers, des secouristes, ceux-là étaient touchés aussi, quoi. J'ai quand même vu une dizaine de personnes tomber devant moi, quoi. Donc, comme ça, c'est quand même assez rare. Des combats, des morts, des blessés, j'en ai vu trop. Et cette fois-ci, là, on est sur ces quelques mètres carrés et les gens tombent mais pas devant vous à 100 mètres, non, ils tombent devant vous à 1 mètre, 2 mètres, quoi. Ils viennent là pour aider, ils viennent là pour tenir la position. Et c'était assez étonnant ce travail de prise de position et de comment ils sont montés à l'assaut, parce que il y avait ces types avec ces boucliers qui montaient, et juste derrière, il y avait des centaines de gars qui avaient des sacs de pierre, des palettes de bois, des pneus, et tout de suite ils remontaient une barricade. Et les gens tombaient, et il y en avait d'autres qui hop, leur prenaient leur place. Mais comme une fourmilière, ou, moi, ça m'a extrêmement marqué. J'ai trouvé ça, le courage était partout quoi, sur ces jeunes gens. Et pas que des jeunes gens, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait aussi des types de 60 ans et qui montaient à main nue, quoi. C'est vraiment incroyable. Et c'est quand on parle du peuple de Maïdan, alors là effectivement je sors un petit peu de mon cas de journaliste, de ma neutralité, mais oui, j'ai pas peur de le dire quoi, j'ai eu un sacré coup de cœur sur cette histoire. Leur courage, leur foi dans chasser ce président malhonnête, je crois que ça l'emporte par-dessus tout. Et je crois que ces gens, ils savaient que là, ils étaient en train de gagner une bataille et que de toute façon, ce qui se passait était tellement fort qu'ils ne pouvaient plus reculer. Donc même s'ils devaient y laisser leur vie, ce qui a été le cas pour plusieurs, ça, ils y allaient. Et je crois que c'est là, on peut parler vraiment de courage pur, quoi. Il n'y a pas d'artifice, il n'y avait pas de... Il n'y avait rien. C'est pas comme quand, par exemple, dans certains conflits, on sait qu'il y a des gens, s'ils vont mourir, ils vont aller au paradis, et ils vont être récompensés, et puis ça va être des martyrs. Enfin bref, vous voyez, il y a cette espèce de prise de conscience, de religion qui fait du travail sur eux-mêmes. Enfin bref, là non, il n'y a rien. C'est pas quelqu'un qui leur a inculqué quelque chose. Non, non, c'est juste que, voilà, ils veulent vivre libre, ils veulent une démocratie, ils veulent plus de tout ça. Et c'est juste comme ça se passe souvent. Mais sauf que là, il y a rien, quoi. Et c'est même pas un mouvement politique. C'est pas un renversement, c'est pas un coup d'État. C'est le peuple, quoi. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'était comme Louis XVI, quoi. Voilà, Louis XVI qui s'est fait renverser par le peuple.
Quand vous êtes derrière votre arbre avec ces signes, pendant ces 2 heures, les gens ne peuvent pas sortir de leur arbre, on leur tire dessus, ils sont planqués là. Qu'est-ce que vous pensez ?
Il y avait des arbres, au début, pour progresser, on se met derrière des arbres, et puis on fait des bonds, et après, effectivement, on reste derrière notre petit talus de terre. Et ça ne dure pas 2 heures, parce que toute l'attaque, pour moi, a duré 2 heures, à partir d'en bas jusqu'au moment où je suis redescendu, mais là-haut, je crois que j'ai dû rester à peu près 3 quarts d'heure coincé sous les tirs. Qu'est-ce qu'on pense? On pense toujours la même chose, comme toujours dans ces cas-là. Mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Parce que franchement, quand je suis arrivé à cet endroit-là, bon, on se faisait tirer dessus à droite, à gauche auparavant, donc on sait à peu près d'où ça vient, on sait où se protéger, on voit si quelqu'un tombe à côté, c'est pas la bonne place. Enfin bref. Et en l'occurrence, là, quand je suis arrivé, je me suis pas rendu compte où je me mettais, quoi. Parce que je suis arrivé et je suis tombé, j'ai vu tous ces morts et je suis tombé au milieu d'eux, parce que j'ai compris que j'étais au mauvais endroit, au mauvais moment, et tout de suite je me suis allongé. Et au moment où j'arrive, je m'allonge, il y a un type qui arrive vers moi et qui se fait blesser, qui tombe devant moi, quoi. Je fais cette photo comme ça, comme je peux, et là, le calvaire commence. Enfin bon, c'est quelque chose que je souhaite à personne de vivre, quoi, parce que c'est de voir des gens mourir devant soi comme ça, et puis soi-même être tiré comme un lapin, c'est assez désagréable. Il n'y a pas, il y a pas beaucoup de possibilités de retraite, parce que se replier, ça voulait dire courir sur plus de 50 mètres à découvert. Voilà, quand il suffisait de voir, il y avait des gens qui se levaient, qui tombaient. Donc, il fallait vraiment que je me tire de là, quoi. Parce que à un moment, j'ai décidé de faire le mort en me disant, bon, on tire pas sur les morts, ça sert à rien. Et il y a quand même eu plusieurs fois des balles qui sont arrivées pas loin, et dont une, effectivement, qui m'a tapé alors que j'étais allongé par terre à 30 cm de ma tête. Donc c'est là d'où j'ai compris que peut-être qu'il y avait un type dans l'hôtel Ukraina, quoi. Enfin, j'imagine, je sais pas. Là, vous vous dites, ok, moi, je veux pas crever ici, quoi. photographiquement parlant, ça a été pour mes camarades qui étaient auparavant, pendant qu'il a fait moins 25, là c'était extraordinaire, les photos, c'était très très photogénique. D'abord le décor est planté, les gens ont des gueules, ils sont aussi un peu noirs à cause de cette suite, cette... D'ailleurs, mes appareils photo, là, quand je les reprends, trois semaines plus tard, 15 jours plus tard, mes mains sont noires. Parce que je peux pas les passer sous l'eau, quoi. Bon, je les ai un peu nettoyées et tout ça, mais il reste cette espèce de suie, de pollution, de brûlé, de... Mais, alors, ce qui était étonnant, c'est que cette place est donc prise le jeudi matin. Même pas une heure après, il y a des cohortes de gens qui font la chaîne pour amener de nouvelles barricades. Donc les morceaux de bois, les pneus, et sur 200 mètres. Et puis en bas, à la place, et ben là, tout est nettoyé. Tout le monde met la main à la pâte, alors que là-haut, il y a encore des coups de feu. Il y a des coups de balai, il y a des pelles, il y a des brouettes. Et franchement... encore une fois, quoi, ce peuple, moi, m'a extrêmement surpris. Et quand je suis allé voir la maison donc du président, c'est pareil, j'étais complètement abasourdi, parce que j'ai fait plusieurs révolutions et j'ai vu ce que ça donne, des gens en colère qui ont chassé le tyran. Enfin bon, c'est, ils pillent tout, ils cassent tout, ils se vengent, ils cassent. Enfin bon, bref. Et là, les gens marchent sur les chemins de goudron. Personne marchait sur l'herbe. Et puis la maison, personne n'a cassé un carreau, personne n'a pillé un bout de statue ou piqué une balle au terrain de golf. Non, c'est d'un respect, mais extraordinaire. C'est pour ça, ça m'a vraiment touché, parce qu'il y avait beaucoup d'humanité et beaucoup de recul dans ce qu'ils ont fait. Parce que bon, je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de pays où les gens se conduisent comme des sauvages. Et la colère peut rendre fou, ça je m'en suis rendu compte, au même titre que nous-mêmes, nous pouvons basculer, hein, c'est évident. Et eux ont toujours tout fait dans la retenue. Quand les décisions étaient prises entre le mouvement, enfin les têtes du mouvement qui allaient en réunion avec la présidence ou avec l'Europe, enfin bref, et qui revenaient, et que les journalistes leur sautaient dessus, leur disaient « Mais alors, qu'est-ce qui va se passer ?» Eh bien, ces tripartis, entre guillemets, ou ces leaders disaient « On va en parler à Maïdan. On va en parler aux gens de Maïdan. » Ça prouvait bien que c'était les gens de la place qui décidaient. Et on l'a très bien vu lors du dimanche soir, quand Yulia Tymoshenko est arrivée avec sa chaise roulante sur la place. Elle a été applaudie, mais tout le monde disait, et personne n'était dupe, plus personne en veut. Ces gens-là n'en veulent plus. Et elle l'a compris, du coup. Enfin, peut-être qu'elle est fatiguée aussi. Enfin, bref, c'était peut-être une décision qu'elle avait prise auparavant. Mais elle l'a compris. Et deux jours après, elle a annoncé qu'elle ne se présenterait pas, quoi. C'est vraiment une histoire d'un peuple. C'est pour ça que c'est touchant, quoi. Et pas un peuple en colère, mais une colère retenue, une colère qui... On n'est pas là. Il n'y a aucun magasin qui a été pillé ou cassé. Franchement, j'étais surpris par cette révolution populaire, mais respectueuse.
Et le son, quand vous dites qu'ils vont sur le podium et qu'ils donnent des nouvelles, on l'entend assez loin quand on remonte vers la rue et qu'on repart vers... Vous avez toujours, au-delà des gens qui se battent, il y a toujours derrière, on entend un son de quelque chose qui se dit...
Ah mais oui, alors par exemple, quand il y avait un petit peu de bataille rangée, un petit peu des grosses batailles rangées aux abords de la place elle-même, hein, entre la police et donc les révolutionnaires, sur le podium, donc qui était placé à 100 mètres, il y avait soit des popes, donc les prêtres de la religion orthodoxe, qui entonnaient des chants, ou soit il y avait des artistes de variété locale qui venaient, et s'en mettent à côté, mais là, du podium, on pouvait les voir, ça se battait contre la police qui s'envoyait des grenades et des pierres et des cocktails. La scène, moi, toute cette histoire m'a subjugué, c'était incroyable. J'avais jamais eu une de telles sensations, des sensations bonnes et mauvaises. Enfin bon, Il y en aurait trop à toutes les données, mais cette sorte de sensation-là était assez incroyable. Il y a même un moment, quand il y a d'autres barricades qui sont près du stade, de l'entrée du stade, et les deux parties se renvoient de la musique. Et ils ont installé un piano, les révolutionnaires ont installé un piano aux couleurs de l'Ukraine, jaune et bleu, sur une carcasse de bus pour que tout le monde entende bien. Et là, il y a une artiste qui vient jouer ou n'importe qui vient jouer pour le plaisir. Et de l'autre côté, ils envoient soit des chants un peu pro-russes ou soit carrément du ABBA, le groupe pop des années 70, quoi. C'était incroyable.
Qu'est-ce que vous avez laissé de vous là-bas ?
Oh ben, on y laisse toujours des plumes, hein. Prude, si je peux dire.
Et quand vous êtes dans votre atelier, que vous êtes à Paris, quand on parle de ça, de Maïdan, quand vous êtes tout seul, que vous rangez vos clichés, que vous y repensez, quelle est l'image qui vient ?
Ces femmes et ces hommes-là qui m'ont subjugué, c'est un amalgame, c'est cette ambiance, c'est... Et puis c'est toujours pareil, quoi. Quand on a failli y rester, c'est forcément plus fort. Alors effectivement, c'est rapporter un peu la chose à soi, mais je ne sais pas si les gens peuvent comprendre, mais bon, c'est un peu compliqué, il faudrait aller chez le psy pour ça.
Est-ce que vous allez y retourner ?
À Maïdan ou chez le psy ?
Les deux.
Le psy, je n'ai toujours pas fait, mais je crois que ça vaudrait le coup parce que... Mais pour Maïdan, avec plaisir. Le seul souci, c'est que comme vous savez, l'actualité se déplace et c'est compliqué. Déjà, même quand il y avait une actualité chaude, entre guillemets, j'avais du mal à trouver des sous pour y aller. Alors, il ne s'y passe presque plus rien. Mais s'il y a des élections, ouais, j'y retournerai avec plaisir.
Mais vous avez des distinctions de partout, vous avez tout eu, vous avez fait des tonnes de conflits. Vous allez en faire beaucoup encore ? Vous ne voulez pas passer à autre chose ? Vous allez continuer à avoir des gens qui se battent ?
Je ne recherchais pas à retourner sur un conflit. Contrairement à ce que disent les gens, non, ce n'est pas une drogue. Non, nous ne sommes pas des têtes brûlées. Non, ce n'est pas une soif de sang. Non, ce n'est pas une chasse au scoop. Moi, je n'ai jamais fait de scoop de ma vie. Après, je peux pas dire pourquoi. C'est un amalgame de plein de choses. C'est parce que vivre fort, oui, soit, ça c'est sûr, oui, vivre les événements historiques qui se passent devant vous, c'est quand même très grisant, oui, ça c'est vrai. Faire des images sur des faits d'actualité, c'est extrêmement fort aussi au niveau de l'œil et au niveau pratique. Voilà, après, je fais pas ça pour aller chercher les médailles ou autres prix, je veux dire. Dans mes veines coule ce sang de journaliste, hein, ça c'est sûr, ma carte de presse pour moi est importante. Je suis photographe avant tout, voilà, mon œil travaille et mon esprit de journaliste aussi. Après, c'est pas parce que je fais des images sur un conflit, des images journalistiques, que je suis pas capable de faire d'autres choses. En tant que photographe, je suis capable de faire d'autres choses. Voilà. C'est aussi le fait aujourd'hui, c'est que les ponts sont ouverts. On l'a bien vu dans le photojournalisme. C'est plus celui que je faisais dans les années 80 ou que celui faisait Capa ou Caron. Où effectivement, c'était très orienté, très objectif pratiquement, si je peux dire. Mais aujourd'hui, on sait très bien que voilà, il y a aussi bien des travails d'auteur, que des travails presque plasticiens, on peut le dire, que du documentaire. Voilà. Tout ça fait pour moi, c'est du journalisme, du photojournalisme.
Ce podcast a été enregistré le mercredi 26 février 2014 par Jean-Louis Vinet. Le montage-mixage a été réalisé par le même Jean-Louis Vinet en avril 2021. C'est un podcast produit et diffusé par Alloy. Vous pouvez retrouver tous nos articles concernant Éric Bouvet et tous nos podcasts sur notre site www.a-l-oeil.info, info au singulier. À bientôt.